Aujourd'hui, dans la série sur, encore une fois, les anciens, on pourrait dire que les ministères de l'Église se divisent en deux branches. Ce qui est sous les anciens et c'est ce qui est sous les diacres. OK? Donc, si on peut voir finalement nos portions en fonction que comme un corps, pas juste des individus. On est dans une époque qui a beaucoup investi dans les individus, puis c'est très bien, tu sais, dans le sens où il y a un avantage à pas simplement être une communauté, puis un inconnu dans la communauté. Mais les extrêmes ne sont jamais trop bons, puis on est malheureusement formé à penser que ça commence avec nous, puis ça finit avec nous. Tandis qu'on est incorporé dans un corps par la nouvelle naissance, dans le corps de Christ. Et en même temps, on fait partie d'un peuple qui remonte au début des temps. Quand, finalement, hier, on a fait les funérailles de Madame de Courville. Et puis, il y a une expression dans l'Ancien Testament, il dit « Le chemin, c'est le chemin de toute la terre. » Mais en même temps, on parle d'Abraham lorsqu'il est mort, dans sa vieillesse, âgé, et il est retourné, il est parti rejoindre son peuple. Donc, ça veut dire que même au temps d'Abraham, il y avait un peuple qui le précédait. Ça n'a pas commencé avec lui. D'après vous, qui serait le premier converti? La première personne qui a cru dans la promesse de Dieu pour être sauvée? Adam. Comment vous savez que c'est Adam? Voilà. C'est par le nom qu'il donne à sa femme. Il aurait pu l'appeler la mère de tous les problèmes. Mais il l'a appelée la mère des vivants, parce qu'il a cru la promesse que Dieu a déclarée par la postérité de la femme, viendrait celui qui écraserait la tête du serpent. Et il l'a cru. Donc, finalement, ça l'a délivré ce couple de peut-être... Imaginez comment il aurait pu saillir pour le restant de leur jour. Tu sais, il aurait pu y faire sentir une culpabilité continuelle. Mais... Dieu nous délivre pas seulement de nos péchés, parce qu'on parle beaucoup de ça dans nos vies chrétiennes, hein? Nos péchés, nos faiblesses, nos fautes. Bon, c'est sûr qu'il y en a, là. Mais on ne parle pas assez d'être délivré d'un cancer encore plus dangereux. Notre justice propre, notre justice personnelle, celle qui se bâtit par la loi, celle qui se bâtit par ce qu'on fait. Et Paul dit, je ne veux pas être trouvé dans cette justice-là. Il veut être trouvé dans celle qui vient par la foi, celle que Dieu nous donne, qui est la justice de Christ à notre compte. Car la nôtre va toujours être sujet de crise. Une justice qui vient de la loi, bien la loi, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la colère. Et puisqu'on a des natures qui sont séparées de Dieu, réconciliées maintenant en Jésus-Christ, c'est vrai, mais toujours dans un corps de mort, il ne faut pas se faire d'illusions. On peut être extrêmement décevant. Et donc, on peut juste compter sur celui qui est véritable et fidèle, Jésus-Christ. Lui est la garantie de notre salut. En dehors de lui, il n'y a aucune garantie. C'est pour ça que ceux qui sont appelés finalement à la prédication, ceux qui sont appelés à prendre soin des églises, les anciens, doivent avoir le ministère de répondre aux contradicteurs, protéger le peuple de Dieu de lui-même et aussi de l'extérieur. Fait que ce que je nous propose, c'est de lire la lettre que Paul écrit à un de ses disciples, Tite. La petite lettre de Tite, parce qu'elle est petite. Puis ceux qui n'aiment pas lire, c'est un épître à lire, c'est vite passé. Puis je disais, c'est pas pire, j'ai lu un épître au complet aujourd'hui. Fait que je vous propose qu'on puisse la lire, vu qu'elle n'est pas trop longue, et puis après ça, on va mettre surtout l'enfance sur... Elle est tellement petite qu'elle ne la trouve pas, c'est ça? Donc, ça commence avec Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens par Dieu, qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en la commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit point ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempéré ou tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais de montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres apprennent aussi à pratiquer des œuvres bonnes, pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Et tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu, de cette lettre que Paul adresse à Tite. Si vous remarquez, le but de la lettre, c'est deux choses. Premièrement, que la doctrine, que la parole de Dieu, que le message soit protégé. Il va parler ici, de, par exemple, l'ancien, l'évêque, donc on voit ses synonymes. Ancien, le sens du mot nous rappelle encore une fois, c'est quelqu'un qui a du vécu. Donc, ce n'est pas simplement de l'information, mais c'est du vécu. Il n'y a pas nécessairement un ange, hein, en passant, parce que Paul peut avoir demandé finalement qu'il puisse y avoir des anciens jeunes, ou même des gens dans l'œuvre avec lui qui étaient jeunes. Timothée et peut-être même Tite étaient des gens jeunes. Quand il dit à Tite de ne pas te laisser mépriser, c'est parce qu'il n'y est pas d'origine juive, lui. Contrairement à Timothée, que Paul a fait circoncire plus tard. Mais Tite était d'origine païenne, et peut-être un ange, je ne sais pas quel ange il devait avoir, mais les gens qui, par exemple, il dit, embarque-toi pas dans les conversations de généalogie. D'après vous, pourquoi il dit de ne pas s'embarquer dans des conversations en ce qui concerne les généalogies? Parce qu'il y en a souvent qui cherchent à savoir s'ils n'ont pas un juif dans la famille. J'en ai rencontré des chrétiens, surtout en Israël, quand on restait là. On dirait qu'il y a des gens qui cherchaient à savoir s'il n'y avait pas dans leur lignée un juif, comme si ça amenait quelque chose de plus à leur salut. En Adam, tout meurt. Il faut mettre ça bien clair. Puis même en passant, je ne suis pas tellement en faveur d'une théorie qui dit « si tes grands-parents ont fait de la sorcellerie ou de la magie, il y a comme une malédiction. » Tu sais, le 3-4, la génération. Le texte ne souligne pas le 3-4. C'est pas ça l'enfance quand Dieu dit que pour ceux qui l'haïssent, bon, mais tu sais, il y a un châtiment sur 3-4 générations. Mais sur ceux qui l'aiment, il y a une bénédiction sur 1000 générations. Le sens du texte, c'est beaucoup plus de regarder le 1000 que le 3-4. De même manière que dans le jardin, c'était de considérer tous les arbres qu'il y avait à manger plutôt qu'un arbre que tu n'as pas le droit de toucher. Mais notre esprit légaliste, ça c'est, si vous aimez lire un très bon livre, un excellent livre, il est en anglais seulement, je présume, je ne sais pas s'il est en français, hein, je pense. Ouais. Tu vas le traduire? Parfait. Allez voir Damien, il va vous lire ça, il va vous traduire ça. C'est le Targum de notre assemblée. Donc, c'est « The Whole Christ », pensez ça? Oui, « Tout Christ ». Ça va être le titre que tu vas pouvoir mettre dessus. Et puis, dans ce livre-là, l'auteur, qui est Sinclair Ferguson, reprend finalement une étude qui avait été faite par un groupe d'hommes qui voulait souligner le danger du légalisme d'un côté et l'antinomien de l'autre. Le chemin sur lequel on marche en Jésus-Christ a deux côtés de route. Le légalisme, ou dans le sens l'antinomisme contre la loi. Tu sais, il y a des gens qui se disent aujourd'hui, puisque je ne suis plus sous la loi, je peux faire ce que je veux, il n'y aura pas de conséquences. Bien, c'est une folie. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que les auteurs, dont Ferguson qui souligne bien le point, nous montrent que le péché est toujours, votre chute, nos péchés sont toujours précédés d'un légalisme. Et il va même montrer que Ève, c'est dans un esprit légaliste qu'elle s'est perdue avant de briser la loi. Parce que le légaliste va toujours remarquer ce qu'il n'a pas le droit. Et il veut finalement avoir raison ou droit à ce qu'il n'a pas le droit. C'est comme, pourquoi Dieu ne veut pas que je mange de cet arbre? Un arbre dans le jardin, juste un. Et puis, vous vous rappelez, le jardin, là, il est d'une dimension énorme. Je ne sais pas c'est exactement comment, mais ça serait quoi? Il me semble que ça serait une dimension à peu près jusqu'en Syrie, quasiment. À peu près, hein? Si on inclut, c'est ça, l'Irak, la Syrie, l'Iran, jusqu'en Israël. Je dis, c'est énorme. Mais imaginez, là, vous avez tout ça comme un jardin, pas une forêt, là. C'est un jardin que Dieu a fait. Un jardin avec toutes sortes d'arbres fruitiers là-dedans. Et puis, en plus, vous n'êtes que végétarien, peut-être même vegan. Je sais pas. Ça, c'est les plus fanatiques, les dangereux. Ils veulent arrêter le meurtre des animaux aux autres. Bref, tu as tout ce jardin-là que tu peux aller explorer et manger. Tu en as pour des années et des années à explorer ce jardin-là. Cette semaine passée, j'ai eu le privilège de, par la bonté de quelqu'un, de me retrouver au Mexique avec Pasteur Clermont dans un tout inclus. Ça va? Fait que ça, c'est vraiment les vacances totales. Tu t'occupes juste de te lever le matin, prendre ta douche, promener un peu, trouver un palmier pour avoir de l'ombre. Et tu as 3 repas par jour, puis il y a des restaurants ouverts 24 heures sur 24. Bref, tout est gratuit. Bien, gratuit, c'est parce que tu es déjà payé, mais en tout cas. Et puis, la seule chose que tu as à faire, au fond, c'est de rencontrer des gens et puis manger. Il y a toutes sortes de choses à manger. Imaginez qu'il y aurait simplement un petit restaurant de fermé qui c'est juste des hot dogs, on va dire, qu'ils donnent là. Et c'est marqué « Défense de manger ici ». Un légaliste va avoir spoté ce petit restaurant-là. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit? Wow! J'ai payé! Hey! Je veux dire, tu as des buffets à pu finir, il y a toutes sortes de nourriture à manger, mais tu focalises sur le petit stand hot dog que tu n'as pas le droit de manger. C'est ça un esprit légaliste. Quand Ève est provoquée finalement par le malin, ça vient chercher son côté, il n'a pas le droit de me défendre. Et quelqu'un qui est, on a toute cette attitude-là en passant, là. Le seul moyen d'être délivré d'un côté légaliste, c'est d'entretenir quelque chose dans notre tête. Quelles sont les recommandations que Paul nous donne souvent au travers de ses lettres? Même quand il est en prison, il écrit aux Philippiens, puis il leur rappelle de faire quoi, entre autres? Comment? Rendre grâce. Soyez reconnaissant. Soyez toujours joyeux. Rendez grâce. Maintenant, comment tu fais pour rendre grâce? Oui, c'est... c'est très bien dit. Mais en réalité, il y avait une petite chanson, là, que je ne la connais pas par cœur, là. Tu sais, ça dit « Compte toutes tes... Count your blessings. Compte toutes tes... » Si quelqu'un s'amuse à chaque jour à remercier Dieu pour toutes sortes de détails, tu finiras pas ta journée d'en avoir parlé de milliers de choses autour de toi que tu peux rester reconnaissant. Juste d'être en santé. Tu sais, quand tu es en santé, tu t'en aperçois pas que tu es en santé. C'est quand tu es malade, tu t'apercevais ce que c'était d'être en santé. Donc, juste de pouvoir rendre grâce pour la santé, ou encore une fois, d'avoir des amis, le pays est en paix, on a pu manger aujourd'hui. Toutes sortes de détails que tu peux remarquer et rendre grâce, ça nourrit ton âme de reconnaissance. Et ça vous quoi? Ça vous donne de voir le grand jardin à explorer que Dieu met devant nous, plutôt que de focaliser sur les 3-4 petites affaires qui ne vont pas bien dans ta vie, selon toi. Et puis, c'est une hygiène. C'est une manière de garder, finalement, voir l'abondance de la grâce de Dieu plutôt que le commandement de vue négativement. Et le commandement, quand il est bien compris, encore une fois, une petite question niaiseuse, là, mais quand Dieu a-t-il donné les 10 commandements ou la loi sur le Sinaï? Avant la sortie d'Égypte ou après la sortie d'Égypte? Donc, ça veut dire que la loi est donnée après que Dieu les ait délivrés. Il n'a pas donné la loi en disant « si tu accomplis la loi, quand tu vas avoir accumulé assez de succès, tu vas mériter que je te sorte d'Égypte. Non, ils sont là, en Égypte, esclaves, ils ont tout perdu, et Dieu vient les délivrer, et il leur donne après la loi pour maintenir la liberté. C'est des instructions pour demeurer libre. Il commence en leur rappelant, « Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. » Tous les autres dieux qu'on va mettre dans notre vie vont devenir un cauchemar. Parce qu'au jour de la détresse, les idoles ne donnent rien. Ils sont muets, ils sont sans force. Si j'ai mis toute mon attention, par exemple, dans ma carrière, ça peut être une idolâtrie. Je ne dis pas de ne pas être à votre affaire. Mais il y a des gens qui ont tout misé sur leur carrière au point que ça a détruit leur famille. Ça a détruit leur santé. Ça a ruiné des amitiés. Ils ont abandonné finalement leurs enfants parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les élever. Ils allaient travailler. Ils ont tout perdu et un jour, ils font faillite. Parce que la Bible nous dit, fais attention, la fortune a des ailes. Ou pire, imaginez d'avoir travaillé toute votre vie pour la pension. Tu sais, c'est un peu comme on est des esclaves, là, puis on nous promet qu'à 65 ans, ils vont nous donner une petite pitance pour qu'on puisse être libre, libre du travail. Imaginez, vous travaillez, vous avez 65 ans, on vous fait une petite fête au bureau, tout le monde se promet, on va garder contact. Ça, c'est pas vrai. C'est sûr qu'on a les retraités, ils se retrouvent ici à cette heure. Et puis, imaginez, vous embarquez dans votre voiture, c'était votre première journée de pension, et vous mourrez d'une crise de cœur dans la voiture. C'est arrivé à un de mes amis. En dehors de Jésus-Christ, là, tout passe. Il n'y a rien qui dure ici. Le seul moyen de faire durer quelque chose, c'est dans vos téléphones. Tout le monde prend des photos d'événements qui veulent figer dans le temps, comme si c'était pour les arrêter. Ça n'arrête rien. Ça te rappelle simplement que ça a eu lieu. Mais trop souvent, on est tellement occupé à saisir les moments qu'on ne les vit pas, les moments. Puis c'était drôle, parce qu'avec Pasteur Clément, quand on était là-bas, c'est mon instructeur évangéliste. Tout ce qui bouge et qui parle français. Là, on est au Mexique. Mais il a une oreille fine, le gars, là, tu sais. Hé, c'est des Québécois. Puis là, je savais que, bon, ben, OK, on va y aller. Mais il te fait des contacts avec tout le monde. Puis son but, c'est que, écoute, il faut que les gens soient au moins au courant. Puis il dit en même temps, on va tout de suite leur expliquer qu'on n'est pas un couple. Fait que ça, c'était rassurant. Mais en même temps, tu vois finalement que tout ce que tu peux avoir, beaucoup de gens viennent en disant, là, c'est, on est à la retraite, mais il y a une dame, par exemple, qui vient d'avoir un cancer, pas sûr si ça va revenir, le monsieur, il y a eu d'autres choses. Tout le monde vit en essayant d'oublier qu'ils vont mourir. On veut rêver. Puis quand Christ nous offre tout, tout est payé, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est payé. C'est vraiment le forfait, le tout inclus, le plus extraordinaire que tu ne peux pas trouver. Dieu te paye un tout inclus. Puis quand les gens disent non, non, merci, non. Écoute, explique-moi. Là, j'ai sûrement, il y a une logique qui m'échappe ici à quelque part. Tu ne veux pas être sauvé, tu ne veux pas être béni, tu ne veux pas que Dieu prenne soin de toi. Explique-moi là. Bien, savez-vous quoi? C'est les idoles de nos vies. La meilleure définition à date que je trouve là, sur le pécheur, c'est M. François qui l'a donné. Le pécheur cherche la vie où il n'y en a pas. La plupart d'entre nous, là, si on cherche la vie dans l'argent, il n'y en a pas de vie. Là. Si on cherche la vie dans le succès, il n'y en a pas. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un qui réussit une vie? Tu sais, il devient populaire, il a de l'argent, il a une carrière, il a des diplômes. Habituellement, qu'est-ce qui arrive à ces gens-là autour d'eux? Comment? C'est vrai qu'ils peuvent perdre tout, mais il y a quelque chose de bizarre. Ils finissent souvent isolés seuls parce que ou ils sont enviés ou jalousés. Et puis, je sais pas moi, quelqu'un qui gagne la loterie, ben c'est peut-être pas une bonne chose. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à prendre le risque, là. Mais pensez-y, vous devenez milliardaire, ben millionnaire, millionnaire du jour au lendemain. Les amis autour de vous, là, ils font quoi avec vous? Ils ne peuvent plus vous suivre. Et puis là, après ça, vous êtes mieux d'être marié avant de gagner les millions. Parce que là, vous allez devenir soudainement beau de l'air que vous étiez. C'est vrai. Bref, le Seigneur nous offre une vie sous les radars de la loi, pas contre la loi, mais plus attaquée par la loi. La loi reste toujours un idéal. On ne peut pas être contre la loi, mais ce n'est pas la loi qui va nous sauver. La loi devient un mode de vie. Elle devient comme, voici la réalité finale, voici ce qui va être. C'est justement Dr. Venant qui me rappelait, tu sais, on peut soit entendre à l'impératif, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, ou tu peux l'entendre comme au futur. Un jour, là, tu vas l'aimer de tout ton âme, de toute ta capacité. Madame de Courville, qui est partie dans l'éternité, mon père, Gaétan, plein de nos amis, quand ils sont morts, ils ont été délivrés définitivement de tout ce qui était généré en Adam. Maladie, faiblesse, et comme Paul dit, tant qu'on est dans ce corps, on est loin du Seigneur. C'est par la foi qu'on s'attache à lui. Ça nous demande finalement de s'exercer à la piété, de s'attacher à lui volontairement, de lutter contre nous-mêmes, contre une société, contre un courant. Mais la journée que tu meurs, tu ne luttes plus. Tu es totalement délivré de ce qui nous voilait la présence de Dieu. Et ces gens-là, je suis sûr, c'est peut-être plate pour nous autres, là, mais je suis sûr qu'ils ne pensent plus à nous. Parce que tous les liens qu'on a en ce moment, c'est des liens qui sont temporaires. Jésus nous le rappelle. Vous savez, quand ils ont essayé de le piéger, les gars qui ne croyaient pas à la résurrection, il y avait leur manière de piéger ceux qui croyaient à la résurrection chez les Juifs. Ils disaient, attends, c'est compliqué ton histoire de résurrection. On connaît une femme là, qui s'est mariée. Puis la loi en Israël, c'est si le mari meurt avant d'avoir eu une postérité, la femme, normalement, devrait se marier avec son frère pour que son frère lui suscite une postérité. Puis les gars étaient comiques, là. Ils disaient, elle en a eu combien? 6 ou 7, je ne me rappelle plus. 7, OK. 7 maris, mais ils sont tous morts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle mettait dans la soupe, là, mais en tout cas, ils sont tous morts, tu vois, sans pouvoir faire d'enfants. Et puis, il dit, elle aussi, elle m'en est à mort. À la résurrection, puis là, ils sont tous morts de rire. À la résurrection, on va être la femme de qui? Puis Jésus, il dit, vous êtes stupides, les gars, vous êtes des idiots. C'est pas grave, vous êtes des idiots, c'est normal, vous êtes niaiseux comme ça. C'est sûrement de naissance, votre affaire. Mais non seulement vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, à la résurrection, on ne prendra pas de femme et de mari. On va être comme les anges, dans un état séparé, unique. On va être un corps. Ça va être quelque chose d'inimaginable. C'est pour ça que ceux qui... moi, ça me faisait peur, cette vérité-là. Là, tu sais, il n'y aura ni homme ni femme. Je lui dis, Seigneur, je peux-tu me marier avant qu'il y ait la résurrection, s'il vous plaît? Mais on va être délivré de tout ça. Et on s'en va dans quelque chose qui est inimaginable. Plus de souffrance, plus de tension, plus rien qui va faire qu'on va pleurer. On va être dans une reconnaissance éternelle. Même le manque de reconnaissance qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est comme une mort. On meurt régulièrement. Quelqu'un vous rend un service la première fois. Est-ce que vous êtes content? On est content. Oh, merci beaucoup. Une deuxième fois, on est content encore. Une troisième fois, bon, on commence à prendre ça pour un dû. Une quatrième fois, ben, il aurait dû arriver plus de bonheur, me semble. Je veux dire, il y a quelque chose qui meurt en dedans de nous autres que la reconnaissance, on la perd, à moins de s'exercer volontairement à rester reconnaissant, même devant la bonté que Dieu nous accorde, on peut devenir familier et méprisant. Paul dit, écoute, Tite, tu vas aller établir des anciens, mais choisis-les. D'abord, ils doivent avoir deux choses. Ils doivent comprendre le message. Ils doivent non seulement le comprendre pour le répéter, parce qu'on peut comprendre des choses et bien les répéter. Vous vous rappelez l'histoire que Pasteur Bonicelle m'avait expliqué que dans sa formation à Toronto, à l'université, le professeur de l'Ancien Testament, qui était quelqu'un d'une grande renommée, était néanmoins un libéral. En d'autres mots, c'est quelqu'un qui ne croit pas vraiment que la Bible, c'est la parole de Dieu. T'sais? Bref, il se méfiait un peu. Il a pris la première session. Il dit, écoute, je n'avais jamais entendu un gars aussi capable que ce monsieur-là. Bon, il était impressionné. C'était... Fait qu'à la fin de la session, il dit, écoutez, monsieur Attel, c'est juste que je voulais vous vous aviez une réputation d'être libéral, puis on est extrêmement béni dans votre cour. » Fait que le monsieur s'est marié en disant, « Écoutez, moi je vous ai dit ce que le texte dit, je n'ai jamais dit que j'y croyais. » Le gars est capable de t'expliquer le texte, mais il mêlait la foi, il ne croyait pas. Moi, je ne crois pas à ça, voyons. Dieu parle à un homme, à Abraham, « Ben oui, tu as déjà vu toi quelqu'un qui entend des voix, habituellement tu as une petite pilule là, pour ça. » Mais il était un spécialiste de l'Ancien Testament, sans y croire. Sans y croire. Donc, Paul dit, regarde, Timothée, Tite, les deux partent pour trouver des anciens. Tu vas trouver d'abord ceux qu'il faut recevoir d'abord le contenu. Parce que ce n'est pas naturellement qu'on l'a. Tant que tu n'es pas instruit selon les Écritures, la parole de Dieu, tu n'as pas naturellement cette compréhension. Quand la personne reçoit la parole de Dieu, impose pas les mains avec précipitation. Il donne une couple de recommandations, entre autres à Timothée un peu plus qu'à Tite. Il va toujours leur dire, regarde ce que ça produit dans leur vie. Mets-les d'abord à l'épreuve. Mets-les dans des situations injustes. Alors, regarde la résistance, la résilience, l'amour et la capacité que ces gens-là ont à s'attendre à Dieu. Fait qu'il dit, regarde, d'abord, marié d'une seule femme. Parce que c'était assez courant dans l'Empire romain, dans le temps de la... Quand un empire n'a plus de vision d'aller de l'avant, quand les gens n'ont plus le goût d'être moral parce qu'ils ne croient plus à la moralité, première chose qui arrive, c'est qu'on vit des vies comme si on n'a rien d'autre à vivre et puis on ne veut pas avoir de problème. En d'autres mots, si quelque chose ne fait pas mon affaire, je tire sa plug, c'est fini, merci, bonsoir. Parce que je ne crois pas, parce que la persévérance à bien faire, savoir s'attendre à Dieu, c'est quelque chose qu'on pratique d'épreuve en épreuve. Et si je crois, par exemple, regardez, si je crois que Dieu est souverain, on lit ça dans la Bible, il est souverain, il règne sur toute chose, Dieu. On est d'accord? Deux, Jésus-Christ a reçu de son Père tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ça? Dans Matthieu, Jésus le dit. OK, prenez juste ces deux vérités-là. Il est souverain, puis il a tout pouvoir. On va en ajouter une troisième. Je serai avec vous tous les jours. Il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui peut tomber sans ma permission. Bon, il y en a permis plus ou moins à certains, là, mais ça va. Il est en train de m'en permettre aussi. Bref, là, tu dis, OK, il n'y a pas un moineau qui meurt sans que ce soit la volonté de son Père. Et il dit, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Fait que si tu prends juste ces petites vérités-là, le matin, il n'y a rien qui va m'arriver aujourd'hui que ça ne sera pas souverainement permis de Dieu. Deux, il a dit qu'il jamais il m'abandonnerait. Trois, tout pouvoir lui a été donné. Et quatre, il me dit, tu ne peux pas m'être agréable à moins de me faire confiance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La seule chose que Dieu veut de nous autres, c'est qu'on lui fasse confiance. Dans des situations où est-ce que ça n'a pas de l'air qui est en contrôle, ça n'a pas de l'air qui est au courant, et puis tu te demandes, en disant, écoute, peut-être le malin, finalement, il en profite, puis Dieu est au chat en ce moment, puis tu sais. Si j'y crois à ces vérités, je suis posé d'avoir une attitude différente que ce qu'une personne qui ne croit pas va arriver. Une personne qui ne croit pas à ces vérités, croire, là, c'est plus que d'être informé, c'est plus que de le répéter, c'est d'en vivre. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon corps, ma chair est une nourriture. Il nous donne sa parole qui ne peut pas nous mentir. La vérité vous affranchira. Alors, cette vérité pour m'affranchir, elle doit être mise à l'épreuve. Vous savez qu'une semence germe quand elle est attaquée. On a retrouvé, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais on dit qu'on a déjà retrouvé du blé dans les pyramides, conservé à une température puis sans humidité, et que le grain est encore là des millénaires après. Et on a pris le grain et on l'a mis en terre et il a germé puis il a poussé. C'est quand même assez incroyable, hein? Et à quoi est souvent comparée la parole de Dieu? À un semeur qui s'en va semer. La parole de Dieu, elle germe dans ma vie à un moment donné. Parce qu'il dit, c'est comme la pluie et la neige. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Mais quand il neige, c'est pas là que ça pousse. Mais quand il pleut, je reçois la parole de Dieu. Moi, ma responsabilité en tant que croyant, c'est d'absorber la parole de Dieu. quand on est ensemble, de parler la parole de Dieu. Pour que cette parole, cette semence soit en nous, en abondance. OK? En abondance. Maintenant, ce n'est pas parce que je l'ai reçue qu'elle a germé encore. Elle va germer dans l'épreuve. C'est pour ça que les apôtres vont toujours se réjouir des épreuves. Et si on ne comprend pas ça, on dit, coudonc, qu'est-ce qu'ils ont tout à triper des épreuves? Paul va dire, non seulement on a la paix avec Dieu, puis on est dans l'espérance de la gloire, bien plus on se réjouit des afflictions. OK. Jean nous dit la même chose. Pierre nous dit la même chose. Pourquoi ils se réjouissent dans l'affliction? Parce que c'est dans l'affliction, dans ce qui est injuste à mes yeux, dans tout ce qui va mal dans ma vie, que je peux m'attendre concrètement à Dieu. Pour le reste, je suis en train de rêver ma vie, comme il y a bien des gens qui vivent dans les désirs de leur vie, mais ils n'ont jamais pensé à l'action. Ils ont rêvé leur vie. Mais le croyant, il est appelé à recevoir la parole de Dieu. Puis quand vous la recevez et vous la comprenez, elle illumine votre entendement. Ça devient une lumière, une joie. Waouh, c'est béni. C'est béni quand la journée que vous lisez un passage, il devient vivant en vous. Quand Dieu dit, par exemple, « Ne crains point, je suis ton bouclier. Je m'occupe moi-même de toi. Ne crains aucun homme. » Oh, wow! Quand tu es jeune chrétien et tu n'es pas habitué encore, tu fais ça, « Oh, wow! Quelle réunion! » Tu sais, puis tu as eu un temps où est-ce que la parole t'a vraiment parlé, tu es content, tu es sur un nuage. Il faut toujours avertir ces gens-là, « Mets ton casque. » Pas rien que pour la moto, mais le casque du salut. Non, non, il m'a dit qu'il m'aimait, justement, s'il te le dit, mais en même deux. Parce qu'il va m'arriver quelque chose de contraire à ce que j'ai entendu, pour que je puisse croire Dieu. Dans l'épreuve, Dieu qui promet devient manifeste si je l'attends. Si je ne l'attends pas, puis je pogne les nerfs, puis je fais ce que je veux, j'ai manqué une occasion de le connaître. Je connais ce qu'il dit, mais je n'ai pas connu celui qui l'a dit. Je vais connaître celui qui l'a dit dans l'épreuve. C'est pour ça qu'il dit, choisis des hommes qui ont cette vie que tu peux voir, qui savent comment s'attendre à Dieu. N'oublie pas, tu choisis des économes de Dieu. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Un économe, là, c'est quelqu'un qui gère des finances. Il va être un gérant de la grâce de Dieu. Fait qu'il dit, OK, regarde-le d'abord dans sa famille. Est-ce que sa femme a confiance en lui? Est-ce que ses enfants marchent dans l'intégrité? Ses enfants ont confiance en lui? Puis à Timothée, il en donne encore plus. Est-ce que les gens autour du village, dans le village, est-ce qu'ils ont une bonne opinion de cette personne? Pourquoi? Parce que tu deviens calme seulement si tu sais t'attendre à quelque chose de sûr. La panique nous pogne quand les moyens qu'on avait sont plus sûrs. Mais si tu es certain, puis il y a moyen de développer cette paix. Vous vous rappelez quand je vous ai dit, un moment donné, j'étais avec M. Eppel, il y a une compagnie d'avions, puis un moment donné, il m'invite parce qu'il avait entendu dire qu'on voulait aller à Wemontashi. Tu sais, fait qu'il dit, hey, j'ai entendu ça, que tu fais. J'y vais justement avec un gars du gouvernement. Veux-tu venir? OK, super. C'était au mois de février. Il dit, OK, parfait, habille-toi chaudement et puis viens avec un sac de couchage. Ben, je dis, attends, tu ne m'as pas dit qu'on allait là pour juste pour la journée. Hein? Oui, je reviens, on va revenir normalement pour le soir, là, mais c'est encore. Ben, tu sais, si on crache, c'est mieux d'avoir un sac de couchage. OK, ça t'arrive souvent? Non, mais on ne sait jamais. OK. Fait que j'ai mon petit sac de couchage, j'arrive là, puis le gars du gouvernement arrive aussi. Fait que c'est un Cessna, tu sais. Moi, j'étais assis en arrière, là, le gars du gouvernement est assis là, puis Jean, il est là, il pilote, lui, tu sais. Et puis, on s'en va, tranquillement, tu sais. Et quand on commence à arriver vers les collines, ça commence à brasser, mais pas mal, hein. Toi, tu connais ça, tu as un avion, tu pilotes un peu, là. Fait que ça commençait à brasser pas mal, tu sais. Fait que le gars du gouvernement me regardait en voulant dire... Fait que moi, je disais, regarde, en d'autres mots, regarde Jean, regarde le pilote. Si lui est calme, on peut rester calme. Si lui est stressé, stressons. Mais Jean était bien relax, c'était là, puis il me jasait, tu sais, avec un grand sourire. Bon, je dis, ça doit être correct. Ça m'a calmé qu'il soit calme. Peut-être que c'est une illusion, tu vas me dire. Mais je sais qu'on entraîne même les gens dans les avions à communiquer du calme. Donc, quand le Seigneur dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Dieu, il dit, non, regarde, tu es dans l'épreuve. N'oublie pas, c'est de moi. Oui, mais c'est dur. C'est dur par rapport à ce que tu n'as pas confiance. Fais-moi confiance. Il y a des choses pas trop évidentes. Imaginez, tu vas être tué pour ta foi. Les apôtres ont été tous massacrés, injustement traités, tout le long de leur vie. L'Évangile ne leur a pas amené finalement la gloire et l'honneur de la société. Ils ont été traités comme les balayeurs de ce monde, rejetés. Mais tu ne peux pas en voir plus heureux et plus joyeux qu'eux autres. Même en prison, battu. Tu es battu. Puis j'imagine les prisons de l'époque, ça devait sentir l'urine de l'ancien voisin qui était là en arrivant, pas vrai? Les rats, ça se promène là-dedans. Je ne sais pas, tu sais, ça ne doit pas être propre. Et tu viens de te faire battre de verge. En d'autres mots, Paul devait avoir un corps complètement marqué de partout. Fouetté, lapidé. Je veux dire, le gars, il a passé au cache sans arrêt. Et pourtant, en prison, après avoir été battu, il chante des cantiques à Dieu. Nous autres, des fois, on vient à l'église, on file juste pas le fun, puis là, on regarde le chant en avant. Puis là, louons le Seigneur! Mes yeux ont crevé un matin, puis là, tu veux que je loue le Seigneur? Come on! Je dis, on est pathétique à ce point-là, des fois. Donc, il dit, tu vois, voir que ces hommes-là soient des gens qui ont expérimenté cette grâce de Dieu. Ils ont influencé autour d'eux. Ce n'était pas juste des mots qu'ils ont dit, c'est une vie qui manifeste. Leurs œuvres témoignent qu'ils sont cohérents avec ce qu'ils ont cru. Ils ne sont pas en contradiction avec ce qu'ils déclarent. Puis il dit, en passant, tu vas commencer avec les circoncis. Les Juifs qui demeuraient en crainte étaient des gens rebelles. Il dit, tu dois leur fermer la bouche à ces gens-là. Fait que là, les anciens se préparaient à être nommés pour faire taire les Juifs. Le rabbinat de l'époque en crainte était rebelle à Jésus-Christ et à son œuvre. Et pas seulement ça, mais même la culture de la crainte. Il dit, un de leurs prophètes, Épiménide, je pense, ou Épiménide, qui dit finalement un petit... qui dit, crée-toi toujours menteur, bête méchante, vente paresseux. Puis Paul dit, en passant, c'est vrai. Tu comprends? Oh, mais Paul, tu calomnies, tu parles négativement. Non, 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 c'est vrai, c'est une gang bizarre. Les crétois sont bizarres. En passant, si vous allez en crainte aujourd'hui, dites-le pas ça. Il y a 2000 ans, là, tu comprends? Ils ont changé. Là. Mais il y a certaines cultures qui font un plus mauvais travail que d'autres cultures. Donc, il faut être conscient, qu'est-ce qui a précédé mon comportement? Les anciens doivent veiller à maintenir sans arrêt la doctrine, la bonne semence, la parole dite des Écritures. Il faut une formation continuelle, une recherche continuelle. Parce qu'on soigne quelque chose de plus important que même le corps. Puis s'il y a quelque chose d'important dans notre vie, c'est d'avoir un médecin. Pas vrai? C'est super quand tu es malade, tu es content en Moses d'avoir un médecin. Mais est-ce que vous réalisez que les anciens doivent être ceux qui veillent sur l'âme des gens? Médecin de l'âme. Et combien de fois on a méprisé la parole de Dieu à mettre n'importe qui comme ancien? Ah non, il est bon vendeur, il vendait des chars avant, il est bon... Tu ne vends pas du Jésus ici, non? Tu es supposé de le connaître. Parce que toute personne qui va être appelée ancien, évêque, qui va être mise à part par Dieu pour cette tâche, va avoir un jugement beaucoup plus sévère que le frère dans l'assemblée. Car ils devront rendre compte des vies que Dieu leur a confiées. Par le conseil, en priant pour eux autres, en ayant une observation, voir comment toutes les choses vont bien sans s'ingérer dans leurs affaires. Je dis, ça va être quelque chose que vous ne devez pas convoiter cette place-là. Vous devez simplement vouloir, si Dieu vous appelle, répondez. Prenez toute la formation pour le restant de vos jours continuellement. Parce que dites-vous une chose, on va rendre compte à Dieu des gens qu'il nous a confiés. Et le Seigneur ne rit pas avec ça. Paul a rappelé les anciens de l'église d'Éphèse, où il va renvoyer plus tard Timothée pour mettre d'autres anciens. Il les avait amenés finalement à Milet pour leur donner des conseils avant de partir. Il dit, rappelez-vous, ces gens qui vous sont confiés ont été rachetés par son propre sang. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il va avoir un jugement beaucoup plus sévère. Et donc, tout le livre nous montre sans arrêt comment on peut connaître la foi de quelqu'un maintenant. Je termine avec ça. D'après vous. Oups. Non, c'est plus économique demain que je sais. Mais... Comment on peut connaître la foi de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il dit dans le livre ici sans arrêt? Comment? Comment ils vont réagir dans l'épreuve? Comment ils vont réagir dans des situations difficiles? Comment dans une vie de famille on va réagir? Comment au travail on va réagir? Il dit tout ça afin que la doctrine de Dieu ne soit pas blasphémée. Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Mon nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Vous dites les choses, mais les nations vous voient vivre le contraire de ce que vous dites. Donc, il rappelle à tout le monde ici, vivez en fonction que les gens, s'ils vous ont pas entendu, ils vous ont vu. Et si vous parlez, vous allez être cohérent avec ce que vous dites. Le danger, c'est de ne pas avoir la cohérence. Les gens remarquent bien plus que ce qu'on fait que ce qu'on dit. Parce que les gens, surtout dans notre époque d'aujourd'hui, ils savent qu'ils se font organiser sans arrêt par des parleurs. Il y a des psys qui étudient sans arrêt comment nous tromper pour nous vendre des choses qu'on n'a pas besoin. Puis les gens sont prêts à même faire faillite tellement ils ont acheté du stock. Imaginez, on arrive à nous faire acheter, même quand on n'a plus d'argent, s'endetter, puis des gens perdent tout. Il y a des gens d'une habileté incroyable pour nous manipuler. C'est pas pour rien que quand ça va annoncer l'Évangile, les gens, ils se méfient au maximum. Il y a tellement de sectes, de gourous, de profiteurs. Tout le monde a peur, avec raison. Il reste juste une chose. Proclamer la parole, ça c'est Dieu qui s'en charge pour la révéler aux gens. Mais il y a une seule chose que nous, on doit jouer, par exemple. Est-ce que dans mon comportement, je suis cohérent avec ce que j'ai dit? Et c'est là-dessus que le Seigneur va nous juger. Il y a un jugement pour les croyants. Pas pour le salut, si on le perd ou non, pas du tout. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Vous êtes sauvés pour toujours si vous avez cru en lui. Mais le résultat de nos vies, comment on a vécu avec lui, va être jugé. Chacun recevra la louange qui lui est due. Chacun recevra selon le test. On va être jugé. Et on veut finalement arriver devant le Seigneur pour ne pas avoir honte. Il en a tellement fait pour nous autres. Ça serait bien plate de ne pas lui rendre le minimum de la reconnaissance, de l'obéissance, de la confiance. Il est le seul être humain, il s'est fait homme. Il est le seul, attendez-moi là, il est le seul fidèle et véritable. Le seul. Et c'est pour ça qu'il dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit celui qui s'appuie sur la chair. Il est le seul fidèle et véritable. Et si on peut avoir une paix entre nous, c'est parce qu'on a mis d'abord notre confiance en lui, pas en nous-mêmes ou envers les autres qui sont autour de nous autres. Lui seul est fidèle et véritable. Et il veut qu'on soit cohérent de plus en plus à sa ressemblance. Ça, c'est notre travail. Amen. Seigneur, viens continuellement à notre secours, tel que promis. Non pas pour qu'on soit juste délivré des épreuves, mais pour que dans chaque épreuve que tu permettes, dans chaque situation que tu vas permettre, car rien ne peut nous arriver que tu nous aies permis, mais tu le permets pour une seule chose, c'est que cette vie éternelle que tu nous as donnée soit animée, car tu dis que la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, qu'on connaisse ton Père, le seul vrai Dieu, qu'on te connaisse toi comme le seul qui, en s'incarnant, en prenant notre chair, a réussi à payer la dette. Et la dette a été payée puisque la mort ne pouvait plus te retenir. La résurrection, le troisième jour, a manifesté que pour tous ceux qui vont mettre leur confiance en toi, Seigneur Jésus, dans ton œuvre, ta mort, qui paye la dette, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Seigneur, tu nous accordes cette mort. Tu nous mets dans cette mort. Tu nous baptises dans cette mort, afin qu'on soit appelé en nouveauté de vie. Une vie qui va être soutenue maintenant par ta justice à toi, qui va être maintenue par ta fidélité. Même si tout ça commence dans un corps de mort, Seigneur Dieu, apprends-nous à s'attendre à toi, à marcher avec toi, à tourner les regards vers toi, Seigneur, car tu nous promets que quand on considère qui tu es, ta fidélité, alors on est rayonnant de joie. Et on veut que les gens puissent voir cette joie véritable, cet amour sans hypocrisie que tu vas nous manifester et qu'on peut réfléchir. S'il vous plaît, Seigneur, merci de nous garder dans tes voies, de nous remplir de ta connaissance, la connaissance de ta volonté, afin qu'on puisse être agréable, afin qu'on puisse être utile durant le temps de notre pèlerinage dans cette vie. Merci encore une fois, mon Dieu, pour ton amour à notre égard. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te remercie. Amen.